Radio Déclic,
encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic. Radio Déclic. Radio Déclic.
On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Radio Déclic sur les ondes FPP 106.3. Avec moi aujourd'hui, CZ. Salut CZ.
Salut Flo, salut tout le monde. Le top 10 des pépites, comme à chaque fois. Et je pense qu'on peut peut-être faire une émission spéciale, d'ailleurs, vu le monde autour de la table.
Voilà, pas grand monde aujourd'hui, mais en tout cas, comme on dit, c'est les meilleurs qui sont là. Voilà, c'est dit. Et puis tant pis pour les autres, ils avaient qu'à venir. Et puis, nous avons aussi Senzo. Salut Senzo.
Salut Flo, salut CZ. Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, tranquille.
Alors, à quand une prochaine chronique high-tech ?
Ah, bonne question. Bah là, en ce moment, beaucoup de taf, mais n'hésitez pas à marceler un petit peu sur les réseaux.
C'est pas faute de le dire à chaque fois que je te vois.
Bon, en tout cas, on espère bientôt le retour des chroniques high-tech. Et puis, alors, au sommaire de l'émission, on écoutera tout à l'heure une interview exclusive de Nordine Oubali, donc ce jeune champion devenu sacré champion du monde WBC à Las Vegas aux États-Unis. Donc c'est un Français, donc Cocorico, ça tombe bien parce que c'est sa catégorie. On est content. Donc une rencontre avec notre reporter de choc Adam. Et puis on reviendra sur le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Évidemment, comme l'a dit CZ tout à l'heure, le top 10. Et puis, on commence tout de suite avec l'actualité sportive d'Adam.
On va parler basket, football, mais on commence par le MMA, peut-être bientôt en France.
Oui, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué une légalisation du MMA en France. Très populaire dans l'Hexagone, la discipline mêle plusieurs styles de combat et autorise tous les coups. Le combat se déroule dans une cage et ne s'arrête qu'après l'abandon ou le chaos d'un des deux combattants. Très violent visuellement, le MMA est interdit en France alors qu'il compte pourtant plusieurs fans et d'adeptes. La porte est ouverte à condition qu'une organisation structurée prenne le sport en charge. Si légalisation il y aura, elle n'aura pas lieu avant un moment.
Basket et encore un record.
Oui, encore et toujours, Russell Westbrook continue de nous bluffer. Le meneur qui a déjà coché toutes les cases des records en triple-double a à nouveau réalisé un exploit dans la nuit du mardi à mercredi. Contre les Lakers, le joueur d'Oklahoma a inscrit 20 points, pris 20 rebonds et distribué 21 passes. Un double triple-double, une performance jamais vue depuis 51 ans. Westbrook n'est que le deuxième joueur à produire un double triple-double après Will Chamberlain en 1968. Le natif de Californie qui a réalisé son 134e triple-double n'est plus qu'à 4 unités de dépasser Magic Johnson et de devenir le deuxième joueur le plus prolifique en triple-double de toute l'histoire.
On termine par le football avec Lyon dans la panade et Matuidi encore victime de cris racistes.
Ouais, le Stade Rennais s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais mardi soir au Groupama Stadium en demi-finale de Coupe de France. Dans un très beau match, les Rennais se sont imposés 3-2 grâce à des réalisations de Niang, André et Ben Sebaini. Côté Lyonnais, Traoré et Dembélé ont réduit la marque. Après le match, Jean-Michel Aulas a remis en cause la prolongation de son entraîneur Bruno Genesio. En début de saison, l'objectif était le top 3 et la finale de la Coupe de France, à voir s'il pourra au moins être à moitié rempli en cette fin de saison. Concernant le match PSG Nantes, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous communiquer le résultat. Et de nouveaux cris racistes en Italie, si la Juventus a remporté son match contre Cagliari 2-0, le fait de jeu n'était pas là. En effet, Blaise Matuidi et Moïse Kean ont été victimes de cris racistes, notamment le second nommé qui a subi des imitations en masse de cris de singe après la célébration de son but. L'arbitre n'a pas réagi, alors que de nouvelles règles avaient été imposées par la Fédération Italienne de Football pour éviter ce genre de situation qui est très courante dans le championnat italien. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à après le match, Leonardo Bonucci a remis la faute sur son coéquipier dans une déclaration impensable. Je cite « La faute est partagée à 50-50. Le virage n'aurait pas dû réagir comme ça, mais Moïse n'aurait pas dû célébrer de cette façon. » Fin de citation. Aucune sanction n'est à prévoir.
On continue avec le sport et on part pour la boxe.
Nordine Oubali, boxeur franco-marocain, sacré champion du monde WBC le 19 janvier à Las Vegas, capitale de la boxe, en battant l'américain Roshi Warren. Je l'ai rencontré lors de la cérémonie officielle de la présentation de sa ceinture de champion. Je lui ai demandé comment on se sentait après une telle consécration.
All three in favor of the winner. And he is now the WBC bantamweight champion of the world. Nordine!
Ah, super! Bon, on se sent invincible et surtout une grande, grande fierté d'avoir pu représenter les deux drapeaux, le drapeau tricolore et le drapeau marocain. Et avoir marqué l'histoire aussi, ça permet aussi à nos jeunes d'aujourd'hui de leur donner aussi un objectif et de montrer aussi que tout est possible. Car de où je viens, d'une petite ville qui s'appelle Drocourt, à aujourd'hui se retrouver à Las Vegas pour décrocher la plus belle des ceintures, c'est, comment dire, c'est un conte de fées qui se réalise.
Parce qu'on sait que ton parcours est un petit peu compliqué. Il y a eu les deux Jeux Olympiques, normalement en 2008 et en 2012, où tu as été un peu victime d'erreurs d'arbitrage. On sait qu'il y a beaucoup de détails et de formalités à régler, mais si c'était possible, est-ce que tu aimerais retenter ta chance aux Jeux Olympiques prochainement avec l'équipe de France ?
Les Jeux Olympiques, maintenant les professionnels ont accès maintenant aux Jeux Olympiques. Après, je sais qu'il y a un nombre de quotas de combats. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, mon Olympiade, moi, elle est derrière moi. J'aurais pu participer aux Jeux de Rio, je n'ai pas accepté de faire les qualifications. La fédération m'a proposé, mais dans la vie, quand on dit, on tourne une page, il faut aller de l'avant et pas regarder le rétro. Et mon choix a été judicieux, car aujourd'hui, je suis champion du monde. Maintenant, mon objectif, c'est d'aller chercher les autres ceintures. Et comme je dis, moi, étant jeune, je voulais être champion du monde et pas être champion olympique. Donc, on m'aurait dit au départ, tu vas avoir deux défaites injustes aux Jeux Olympiques, mais tu seras champion du monde à Las Vegas et tu vas détenir la plus belle des ceintures. J'aurais signé direct car ça aurait été pour moi un rêve impossible à faire, mais j'ai montré que tout est possible dans la vie.
Justement, tu as beaucoup évolué hein, depuis ces Jeux Olympiques. Tu as joué 206 combats en amateur pour 187 victoires. Tu as été médaillé d'or des Jeux de la Francophonie en 2005. Tu as été 5 fois champion de France amateur. Puis il y a eu les Jeux Olympiques où ça s'est un peu mal passé. Tu as fait un break de 2 ans après 2012. Comment tu pourrais expliquer cette évolution du Nordin Oubali amateur jusqu'au break de 2012 et le Nordin Oubali professionnel qui est champion du monde? Comment t'expliques cette évolution du Nordin Oubali?
Comme on dit, les échecs, faut pas les prendre comme des échecs, mais dans la vie, soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais faut pas se dire que c'est un échec, je peux pas me relever. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis champion du monde, c'est aussi mes aventures qui m'est arrivé. Même si ce n'est pas des défaites justes, mais ça m'a permis aussi encore d'aller de l'avant, de me renforcer. Et comme on dit, on reconnaît un homme sur le nombre de fois qu'il se relève. Je me suis relevé plusieurs fois. C'est ce qui a fait aussi que j'ai été décroché ce titre suprême et ce titre inespéré, car beaucoup pensaient que ça allait être compliqué pour moi. Et j'ai été marqué d'histoire vraiment dans le pays et la ville de la boxe. Et aujourd'hui, j'ai marqué mon histoire à jamais.
On sait que ton père et ton frère Ali ont été de grandes inspirations pour ton métier. Ton père avait une devise, c'était en travaillant bien à l'école et en faisant du sport, on devient quelqu'un dans la vie. Puis tu es allé voir ton frère en professionnel, tu as suivi beaucoup de ses combats, c'est lui qui t'entraîne aujourd'hui. Est-ce que, à part eux, tu as des idoles un petit peu plus célèbres dans la boxe ou dans d'autres milieux sportifs qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui?
Oui, bah moi j'en ai eu des idoles à Mohamed Ali le premier. Hein. Quand on voit son histoire, elle est incroyable. Après, j'ai eu Floyd Mayweather, Roy Jones Jr. que je regardais à la télé et à Las Vegas, il était dans le coin de mon ring. C'était vraiment un rêve aussi d'avoir Roy Jones avec le palmarès qu'il a. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je côtoie. C'est aussi se dire que dans la vie, en réalité, tout est possible. Rien n'est inaccessible. Il ne faut juste pas se mettre de barrières et d'avoir des idoles, c'est aussi de s'inspirer. Il faut s'inspirer des meilleurs pour être le meilleur. Et en dehors de la boxe, moi, j'aime bien Rafael Nadal. J'aime sa détermination. Et je l'ai découvert quand j'avais l'âge de 17 ans et là, mon âge. Et c'est à ce moment-là qu'il gagne le Roland Garros. Moi, c'était ma première grosse compétition junior, je me souviens, pour faire la championnat du monde junior. Et Cristiano Ronaldo, on peut pas. Cristiano Ronaldo, de où il arrive, aujourd'hui ce qu'il est, il montre vraiment la persévérance et le professionnalisme et la rigueur du travail. Le but, c'est pas d'être bon une année. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans le très haut niveau. Plus dur, c'est pas d'être haut niveau, c'est de le rester. Et dans le sport de haut niveau, on le paye cash. Il faut être toujours assidu et sérieux avec soi-même pour pouvoir vraiment prétendre à aller chercher les plus gros titres.
Justement, en parlant d'idole, aujourd'hui, tu vas être un petit peu l'idole de la nouvelle génération. La boxe en France, elle est beaucoup médiatisée, surtout depuis 2016, avec la médaille d'or de Tony Yoka, notamment. Toi, tu es connu du grand public depuis ton titre de champion du monde. Donc, tu risques, je pense que tu t'en doutes un petit peu, d'être l'idole des jeunes. Quels conseils tu leur donnerais à ceux qui, comme toi, aimeraient commencer la boxe, devenir champion du monde un jour? Quels conseils tu pourrais leur donner?
Moi, je reçois beaucoup de messages, hein, même des vidéos de jeunes boxeurs qui sont motivés, mon histoire leur inspire. Ben, moi, j'ai qu'une chose à leur dire dans la vie, ne donnez-vous pas de limites, croyez en vous et ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Car dans la vie, si on se donne les moyens, on y arrive. Et c'est pour ça que je dis la victoire aime les forts. La victoire aime les forts, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire faut être plus fort que les obstacles, faut être dur, fort mentalement, avancer de l'avant. Et comme on dit, il faut se nourrir aussi des échecs. Mais il ne faut pas prendre ça comme des échecs, mais il faut apprendre ça comme des leçons. C'est ce qui va permettre d'évoluer, de grandir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis champion, c'est aussi les mésaventures qui m'est arrivé. Mais c'est ce qui a fait aussi, devant 20 000 personnes qui étaient pour l'Américain au départ du combat, à la fin, le public était pour moi. Et aujourd'hui, le public américain m'a adopté, veulent me revoir boxer à Las Vegas. Donc je serai amené à reboxer à Las Vegas. Mais pour moi, c'est une belle récompense et une belle revanche sur le sport et de la vie de tous les jours. Parce que dans la vie, quand on se donne les moyens, tôt ou tard, on y arrive.
Mohamed Ali disait que pour être boxeur professionnel, il fallait de la technique et du talent. Et j'aimerais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que pour devenir boxeur, en tout cas en haut niveau, il faut du talent dans le sens où il le disait, c'était quelque chose d'inné en fait, que des gens étaient nés pour être de grands champions. On sait que toi, tu as grandi dans un milieu où tu as été très inspiré par la boxe, notamment par ton père, par et tous tes frères qui ont fait de la boxe. Est-ce que tu penses que la boxe c'est quelque chose d'inné ou que tout le monde peut réussir et devenir champion du monde comme toi?
C'est comme tous les sports, tout le monde peut y arriver. Il faut juste commencer jeune, il faut être passionné, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de s'entraîner et aller de l'avant. On ne devient pas champion en jouant à la PlayStation. Si tu veux vraiment être champion, il faut se donner les moyens. Pour être un grand champion, je dirais que oui, il faut avoir ce petit truc en plus. Mais après, pour être champion, tu n'as pas besoin spécialement d'avoir ce petit truc en plus. Car je connais beaucoup de boxeurs qui étaient très talentueux. Ils n'ont même pas été champions de France. Car le travail, ils ne voulaient pas se faire mal. Ils ne voulaient pas se donner les moyens. Ils ne voulaient pas faire les concessions qu'il y avait à faire pour devenir champion. Et d'autres boxeurs qui étaient moins bons au départ, hein, moins techniques et moins de talent, mais qui sont devenus champions et des grands champions. Alors qu'ils ont commencé la boxe avec plus de lacunes que le boxeur en question qui avait été entre guillemets talentueux et à la fin qui n'a même pas été champion de son pays. Donc moi je pense pour être champion, il faut surtout être sérieux et pas avoir aussi peur de se donner une bonne hygiène de vie et surtout savoir aussi progresser et être aussi à l'écoute des personnes qui nous entourent.
J'aimerais conclure par une question un peu plus technique. On sait que tu as joué beaucoup de combats dans ta carrière, dont 15 en professionnel, 15 matchs, 15 victoires, dont 11 par KO. Le plus important, ça a été forcément le championnat du monde contre Roshi Warren. Est-ce que ce combat-là, parmi tous ceux que tu as joué, bon, c'était le plus excitant forcément parce qu'il y avait une ceinture à la clé, mais est-ce que c'était le plus compliqué? Est-ce qu'à un moment dans le match, qu'on a tous pu voir à la télé, tu t'es senti en difficulté, tu pensais que la ceinture allait t'échapper?
Bah non, pour gagner le combat, comme je dis, hein, quand on s'entraîne dur à l'entraînement, le combat est facile. Comme je dis à chaque fois, hein, entraînement difficile, combat facile. Donc à chaque fois, je me suis donné les moyens. Et en tant que sportif, hein, faut savoir aussi faire du mal à l'entraînement pour se faciliter le combat. D'autres boxeurs préfèrent faire l'inverse. Être plus tranquille à l'entraînement, mais au combat, ils se disent « Ouais, je vais me donner à fond », mais le problème, c'est qu'il y a des moments ça passe pas. Et au très haut niveau, c'est l'entraînement qui parle. Donc lors de cette finale mondiale, j'ai pas eu de doute, car moi, je me suis préparé pour. Et le scénario du combat s'est passé... grosso modo, exactement comme on le pensait. Et non, personnellement, ça n'a pas été mon combat le plus compliqué parce que tous les combats que j'ai fait, je me suis entraîné dur. Oui, plus compliqué en dehors du ring, car le combat a mis beaucoup de temps à se faire. Tout ce qui s'est passé sur place, des choses extérieures à combattre. Et ça aussi, ça fait partie du combat. Parce que les Américains ont fait en sorte d'essayer de gagner le combat en dehors du ring. Et tu boxes pas à domicile, donc t'es pas chez toi. T'as pas ton public. Aujourd'hui, j'ai gagné le respect des Américains et des promoteurs américains. Donc aujourd'hui, moi je sais que je me suis fait reconnaître mondialement parlant et surtout que le public américain veut me revoir boxer là-bas. Donc pour moi, c'est une grande fierté en tant que boxeur qui représente deux porte-drapeaux. Je représente la France et le Maroc. Et je suis très fier aussi de montrer qu'en France, on a des grands champions. C'est ce que je leur ai dit avant le combat. Au départ, ils pensaient peut-être que la France n'est pas très bien, réputé au niveau des États-Unis parce qu'ils ne nous prennent pas vraiment à notre juste valeur. Et aujourd'hui, on leur a montré qu'il y a un nouveau souffle en France, dans les années 80, 90, on est des grands champions. Il y a eu la crue de la vague qui fait que la boxe tricolore n'était plus au haut de l'affiche. Et aujourd'hui, on revient parce qu'on a eu des médailles olympiques. Aujourd'hui, je ramène un titre du champion du monde. Je suis le porte-drapeau de ces boxeurs et je leur ai montré que dans la vie, tout est possible. Il faut se donner les moyens. Et tous ces grands champions qui arrivent ont encore plus d'espoir maintenant et plus de détermination. Et c'est une grande fierté pour moi de véhiculer ces valeurs.
Écoute, merci Nordine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
On peut me souhaiter déjà de défendre ma ceinture victorieusement. Et après, j'ai marqué l'histoire de la boxe tricolore et l'histoire de la boxe marocaine. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de la marquer encore plus en unifiant les titres. Ce qui n'a pas encore été fait au poids coq, il y a eu deux ceintures. Et le dernier à avoir fait championnat du monde unifié, c'est Mormec il y a très longtemps. Donc maintenant, moi, mon but, ça serait vraiment d'aller unifier les titres et pourquoi pas aller chercher les quatre ceintures. C'est du jamais vu et vraiment rentrer dans l'histoire de la boxe tricolore.
Merci beaucoup Nordine, ça a été un plaisir. Just another one. Nadia.
Radio Déclic 106.3.
Radio Déclic FFP 106.3, c'était Nadia. Et c'est parti, on enchaîne avec le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
Depuis 2006, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient s'attache à prendre le pouls des pays du Maghreb et du Moyen-Orient à travers son cinéma. Outre un focus accordé chaque année à un pays spécifique, cette année, la Tunisie à l'honneur. Le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient propose durant 20 jours de découvrir ou redécouvrir sur grand écran de grands succès populaires, des avant-premières et de nombreux films inédits, soit une cinquantaine de fictions et documentaires et une compétition de courts-métrages ponctués de rencontres avec des personnalités du cinéma. Radio Déclic fait un focus sur les membres du jury lycéen qui, après une journée de visionnage et de délibération, remettront leur prix du meilleur court-métrage doté d'un prix numéraire TV5 Monde le dimanche 7 avril au cinéma L'Écran. Nous avons rencontré quelques élèves du lycée Sugère, membres de ce jury.
Je m'appelle William, je suis en BTS audiovisuel option gestion de production et j'aimerais être producteur.
Alors bonjour, je m'appelle Nil Padonou, j'ai 19 ans et à l'avenir j'aimerais être producteur de musique.
Moi je m'appelle Adèle, je suis en BTS audiovisuel option gestion de production et j'aimerais être comme Nil, productrice de musique.
Moi c'est Amine, j'ai 21 ans et comme William j'aimerais être producteur plus tard.
Moi c'est Anna, j'ai 22 ans et j'aimerais être réalisatrice.
Vous représentez donc le jury de lycéens, donc vous avez élis un court-métrage, donc les résultats seront dimanche, donc on verra ça. Alors moi je voudrais savoir dans un premier temps pourquoi vous avez choisi de participer à cette journée et d'être jury.
Alors c'est notre prof de physique qui nous a proposé, on n'a jamais fait ça en fait, et c'est génial de pouvoir donner de la force, donner de l'amour à quelqu'un, et puis c'est bien, il y a un débat.
Ça c'est une nouvelle expérience, on est en BTS audiovisuel en cinéma et on n'a jamais participé à ce genre d'expérience où on voit plusieurs films et puis ça nous fait apporter une analyse plus critique sur les films qu'on peut voir et donc c'est une superbe expérience, il fallait sauter sur le casse, fallait pas refuser en fait.
C'est super intéressant de pouvoir voir plein de films différents et de pouvoir débattre après tous ensemble et d'avoir les avis de chacun, c'est super intéressant de voir ce que les gens captaient dans les courts-métrages et ce que d'autres ne voyaient pas et du coup c'était super intéressant comme débat.
Ça c'est cool d'être entre cinéphiles et de parler cinéma. Finalement, on regarde des courts-métrages et des documentaires aussi. C'est toujours plaisant de parler cinéma avec des gens qui aiment le cinéma. On le fait vivre, finalement.
Parler avec des gens, c'est une chose, et c'est sûr que c'est super important et intéressant. Mais on était aussi accompagné par une réalisatrice qui vient de sortir un long-métrage elle-même, qu'on aura une possibilité de voir dans 2-3 jours. Et c'était intéressant aussi de voir son point de vue et de voir comment quelqu'un qui est professionnel déjà comment lui il ressent ce qu'il voit à l'écran.
Alors les discussions ont été intenses hein, pour choisir ce court-métrage. Quels ont été les critères de sélection ?
Alors il y avait sûrement une critère sur le scénario et sur l'histoire ainsi que l'identification avec le personnage. Est-ce que ce film nous parle ? Et de quoi il nous parle, mais aussi comment il nous parle de ça, c'est-à-dire tout ce qui est image, tout ce qui est l'aspect photographique et artistique, l'étalonnage, etc. Et aussi bien sûr la qualité artistique tout court.
Oui, pour revenir sur l'esthétisme, on a beaucoup parlé des jolis plans, etc., que les films pouvaient nous proposer. Et c'est là où je pense que les débats ont été les plus passionnants parce qu'on parlait vraiment procédé cinématographique et ressenti, donc c'est toujours très plaisant.
On a surtout beaucoup débattu sur les aspects thématiques. Donc c'était un festival c'était des films sur le Moyen-Orient, etc. Et du coup, c'est pas quelque chose qu'en Europe on maîtrise forcément très bien. Donc c'était intéressant de voir un petit peu la réalité, de se rendre compte en fait de comment ça se passe là-bas. Et puis c'était super intéressant de voir une autre culture aussi, plutôt la culture américaine qu'on a l'habitude de voir. C'était intéressant de voir autre chose.
Donc c'est vrai qu'il y avait les critères cinématographiques avec les valeurs de plan, etc. Et aussi le scénario qu'il fallait prendre en compte, mais personnellement je me suis surtout penché sur l'émotion que je pouvais ressentir et si je me reconnaissais dans les personnages, et c'est ça qui a plutôt joué donc par rapport à mon choix à élire le meilleur scénario, enfin je veux dire le meilleur court-métrage qui était présenté.
Mes critères c'était l'audace, la créativité et beaucoup de goût personnel aussi. Y a des choses qui m'ont plu parce que ça me rappelle mon passé, donc voilà.
Bono, prof au lycée Sugère, nous parle de l'apport de cette expérience pour ses élèves.
Alors la chose que j'ai remarqué à travers les ans et encore aujourd'hui là, c'est que à l'issue de la journée, il y a une vraie complicité qui se crée entre le parrain ou la marraine, donc une réalisatrice ou un réalisateur, et les élèves. La preuve en est, on est en train de faire l'interview et ils sont encore en train de débattre, d'écrire. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et derrière, c'est libérer leurs paroles, leurs ressentis en termes de cinéma sur ce qu'ils ont vu.
Vous, en tant que prof, est-ce que après c'est quelque chose que vous reprenez avec vos élèves ?
Alors c'est quelque chose que je prépare un tout petit peu en amont en leur disant, voilà, il va y avoir tant de films venus de tel horizon, de telle durée, de tel format. Et après, je reviens pas sur l'intégralité de la programmation d'aujourd'hui, mais je reviens toujours sur un ou deux courts-métrages. Et d'ailleurs, je les récupère souvent sous une forme dématérialisée pour les réexploiter les années d'après pour réamener justement cette couleur particulière du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient.
Justement, un cinéma qu'on connaît très peu, en tout cas en France, vous pensez que ça incite encore plus les élèves à aller dans ce domaine de l'audiovisuel ?
Bon, en tout cas, pour eux, c'est sûr que c'est une vraie découverte d'un pan cinématographique qu'ils méconnaissent, pour la plupart. J'ai vu sur la pause de midi qu'il y avait des liens qui se tissaient entre la prod du Panorama et mes étudiants de gestion de la production. Donc ça va peut-être amener à des débouchés après, mais ça, on reprendra cette interview l'année prochaine et je pourrai vous en dire plus.
Merci beaucoup. Alors Leïla Bouzid, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes réalisatrice et scénariste tunisienne et vous êtes la marraine aujourd'hui pour ce jeune jury de lycéens. Alors comment s'est passée la journée d'aujourd'hui ?
Alors c'était hyper intense. On a vu 9 films avec 20 jeunes, donc c'était très intense. On a discuté de chaque film, donc c'était une journée intense et passionnante.
Alors vous êtes la marraine, donc quel a été votre rôle en tant que marraine avec ces lycéens ?
Ça a été vraiment de leur donner des outils, parfois des mots, pour qu'ils puissent vraiment parler de ce qu'ils ressentent et avoir des outils techniques pour pouvoir discuter et défendre aussi leur point de vue sur les films et même analyser ce qu'ils ressentent intuitivement en regardant les films mais que peut-être ils n'auraient pas su savoir d'où ça venait.
J'ai assisté un petit peu à la fin de la délibération, alors avec des discussions intenses et quand même pas mal d'arguments.
Oui, c'était vraiment incroyable parce que non seulement ils ont joué le jeu, et quand au final ça s'est resserré sur 3 films, ils ont vraiment défendu chacun leur point de vue, pourquoi ce film et pas un autre, ou pourquoi pas ce film particulièrement. Et ce qui était fascinant, c'est qu'au final, les questions qu'ils abordaient, c'était des vraies questions de cinéma, des questions de rapport éthique aux images ou de pudeur ou encore de esthétique pas assez accessible. Donc c'est vraiment des véritables questions de cinéma et de critique de cinéma et de spectateurs. Donc c'était vraiment fascinant de les voir s'investir comme ça, cet espace critique.
Alors c'est la 14e édition du Festival des Panoramas des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Que pensez-vous de ce genre de festival ?
C'est super parce qu'on voyage avec chaque film et le cinéma est un moyen incroyable d'interroger les clichés, d'interroger la représentation du monde et ce monde-là, le monde du Moyen-Orient et du Maghreb, est un monde sur lequel les représentations sont très délicates aujourd'hui, représentées dans les médias d'une manière assez simplificatrice et simpliste, disons. Et c'est vrai que là, d'un coup, un film, ça redonne de la complexité, ça vient interroger des choses et aussi nous faire ressentir de l'empathie pour des personnages, voyager. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir voir tous ces films-là.
Alors, on l'a dit, vous êtes réalisatrice tunisienne et scénariste aussi. Alors justement, peut-être un mot sur la situation du cinéma en Tunisie.
le cinéma tunisien connaît une énorme effervescence en fait ces dernières années depuis la révolution. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes tunisiens, énormément de premiers films, une belle présence en festival. Vraiment, et même les salles tunisiennes reprennent vie, elles sont remplies, il y a de plus en plus même des succès publics, c'est un cinéma bouillonnant avec des salles pleines, c'est vraiment une période intéressante et vive du cinéma tunisien.
Alors avec aussi notamment particularité, je dirais, avec beaucoup de femmes aussi réalisatrices hein, par rapport à d'autres pays du monde arabe. Alors est-ce que c'est grâce au CSP ?
Oui, c'est l'histoire de la Tunisie en fait. La Tunisie, par son histoire, a toujours une place importante pour la femme. Et je ne sais pas ce que ça vaut, mais à un festival, on m'a dit les premières actrices, c'était des Égyptiennes, mais les premières réalisatrices, c'était des Tunisiennes dans le monde arabe. Et c'est vrai que c'est, pour le coup, c'est une vraie tradition dans le cinéma tunisien d'avoir des réalisatrices femmes. Je pense que c'est intimement lié à l'histoire du pays et à la place de la femme. Donc, en partie... au code du statut personnel et à tous les acquis qu'ont les femmes tunisiennes, c'est sûr.
Justement, il y aura la projection de votre film, À peine j'ouvre les yeux. Alors, un mot sur ce film, votre premier d'ailleurs long métrage.
Alors, c'est un film que j'ai tourné à Tunis en 2014 et c'est un film qui revient sur les années Ben Ali, sur les derniers mois avant la révolution. C'est vraiment un film sur la jeunesse tunisienne, l'énergie de la jeunesse tunisienne qui voit de l'intime... quelque chose qui est en train de se passer et qui va arriver historiquement quelques mois plus tard. Mais voilà, c'est un film où si vous avez envie d'écouter de la musique, de sentir plein d'énergie, voilà, il faut voir À peine j'ouvre les yeux.
Alors, un film primé en 2015, notamment le prix du public. Alors est-ce que c'est finalement mieux que d'être reconnu par le public que par ses pairs?
Ah oui, c'est vrai qu'À peine j'ouvre les yeux a cumulé énormément de prix du public et c'est vraiment les plus beaux prix parce que ce sont aussi ces prix-là qui permettent au film d'aller en salle, de sortir, d'avoir les gens qui viennent. Et c'est oui, quand on fait des films, on les fait pour qu'il y ait des gens qui les regardent et qui ressentent des émotions et faire voyager tout un tas d'émotions. Donc c'est les prix les plus précieux. Un film sans public n'existe pas.
Alors peut-être, cette fois-ci vraiment pour finir, est-ce que, voilà, peut-être un long métrage dans la tête ?
Oui, je suis en pré-préparation d'un film, donc du prochain long qui, j'espère, va se tourner à la rentrée et qui sera à Paris et en Ile-de-France.
Peut-être une idée sur le titre déjà ? Petit synopsis ?
Le titre, juste. Ça s'appelle « Une histoire d'amour et de désir ».
Merci beaucoup.
On écoute tout de suite la rappeuse tunisienne Medusa.
الجهل تغاب خلانا من نقيض النقيض وين الحرية اللي جريوا عليها الرجال فرحة ما تمت وينو الاستقلال ادفو كونسيون الشعب ولا ديفيزي افلام تنبير ورعب توتي كالكولي شعبي كونسومي بيسك سم تسرب مش احنا اللي جبناه هما يحبوا مخنا مخلك باغاليزي الشعب ولا فالسو تنكر في الهوية هذا الوين يحبوا يوصلوا ياخذوا الفلوس سوا ديزون الاعانات اجا وريني خويا في الشمال من البرد مات ها حبوا عالجهل ولا بزيد لا بخوف لا بيت تزيد الاوبجيكتيف ما عادش واحد كيف ما قالوا وكراك ديفيزي بو ميو غيني بس الدنيا ورد اوجا اكسسيف ليبرتي We're gonna make us down even that will be alright we'll be stronger you can fire destiny your liberty you want us like the soldier giving us your damn order nothing can stop hand in hand bruh we gonna be stronger so hold up. مش هالاشكال تتحكم فينا قاعدي فوت دينيتي لعبة لعبوها واللي
فول البلايد فما المتشمتين يحبونا ساكتين نجري ورا القدمة شعلوا النار في الأسوام حتى كان جا فما خدمة برشا بهام وبرشا جهل وبرشا خوف هذا اللي نحس فيه هذا فيش قاعدة نشوف كيف ما قالوا وغريك ديفيزي فومي غيني This is the new world order excessive liberty You don't gonna make a sound even though we'll be right We'll be stronger you can fire this destiny and liberty You want us like the soldier giving us your damn order Now they get up hand in hand bruh We gonna be stronger So hold up
C'est l'heure du top 10 des pépites de CZ.
En numéro 10, l'acteur américain Nicolas Cage s'est marié samedi dernier et annonce son divorce seulement 4 jours après. Numéro 9, au Havre, lors d'un contrôle d'une ado de 15 ans, a reçu donc une amende de la SNCF en achetant son titre de transport 10 centimes de plus par rapport à son abonnement habituel, qui mais ça ne correspondait pas donc à son trajet. Donc suite à la médiatisation de cette affaire, la SNCF a décidé d'annuler cette amende. Et en numéro 8, là elle est pour toi Flo, Damien, 34 ans, a découvert un rongeur dans sa canette de Coca-Cola, une fois bien sûr le soda intégralement avalé. Et durant 21 jours, il était bien sûr sous surveillance. Numéro 7 à Nantes, une femme placée en garde à vue, et oui, qu'un taux d'alcoolémie étant de 2,38 grammes par litre de sang, après avoir tenté de voler un camion de pompiers parce qu'elle est fan de l'uniforme. Selon le commissariat, ce n'est pas la première fois que cette quadragénaire tente de dérober un véhicule de pompiers. Allez, numéro 6, à votre avis, les amis autour de la table, et vous, chez vous, un gel douche vient de sortir, mais quel est son parcours?
Alors c'est la grande mode en ce moment des produits cosmétiques au cannabis, je dirais.
Non, ça aurait pu, mais non.
Parfum Inyam.
Parfum
Inyam.
Non. Il a faim, c'est pour ça. Inyam, je rappelle pour nos auditeurs et auditrices qui est une racine en fait qu'on mange.
Non, mais on est pas loin au niveau de la bouffe par contre.
D'accord.
On est pas loin.
Moi je sais.
Ah tu sais?
Ouais. Ma famille m'a dit c'est au Queen Yaman.
Non mais non, c'est une blague.
Bah non.
Ah bon? Ah, attends, je lis ça, je lis l'info. Hein. Une petite entreprise des Côtes d'Armor spécialisée dans les cosmétiques à base d'ingrédients bretons a lancé un gel douche parfum Queen Yaman en effet en début de l'année et les commandes affluent pour sentir bon le breton. D'ailleurs le Queen Yaman, comment ça se fabrique?
C'est simple, c'est de la pâte à pain, du beurre. Et du sucre, de la pâte à pain, encore du beurre, encore du sucre, et puis répéter l'opération jusqu'à ce que ça déborde.
Merci.
Ah, c'est breton.
Eh ben écoutez, ça va bien sentir bon dans la salle de bain.
C'est pas que l'odeur, ça.
Dans un instant, la deuxième partie des pépites, on continue en musique avec Queen Bee. Et oui, vous avez reconnu Beyoncé avec son titre Halo sur Radio Déclic FPP 106.3.
I built, well baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound, I found a way to let you in, but I never really had a doubt, standing in the light of your halo, I got my angel now, it's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk Again. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your Yeah.
Sur Radio Déclic, et Senzo d'ailleurs, t'étais là comme un fou en écoutant Beyoncé, parce que t'as une petite anecdote à nous raconter.
Ah oui, oui, moi j'ai assisté au concert, tu sais qu'elle est venue avec son mari au Stade de France, donc je rappelle, hein, son mari c'est Jay-Z, et ils sont venus bah, le jour de la Coupe du Monde, le jour où on a gagné la Coupe du Monde. Le jour de la finale, et c'était mais incroyable quoi. Enfin, ils avaient ouvert le stade et tout pour qu'on puisse assister au match avec eux. Et puis le jour où on a gagné, on dirait qu'ils avaient la bonne étoile avec eux. Bah, c'est le cas de le dire. Ils ont rajouté l'étoile sur le maillot.
Oui, parce qu'ils sont arrivés sur scène. Un coup Jay-Z, un coup Beyoncé.
Exactement.
Avec le maillot deux étoiles imprimé.
On était vachement surpris. On venait tout juste de gagner, genre peut-être. Il y a quoi 30 minutes et les mecs ils ont dit un maillot.
Ah bah, c'est oui. Qu'on peut s'interroger sur le milieu footballistique.
Et puis nous, on a galéré en tant que supporters pour l'avoir à l'achat.
Et à, ah oui, fois, et à chaque fois que c'est en France, on la gagne.
Mmh. Ah non, c'est pas en France, là.
C'était pas en France.
Non, c'était pas, ouais.
Non, ah c'était... bah non, c'était pas en France. Ah non, c'était en Russie.
C'était en Russie.
En Russie. C'est vrai. Preuve que voilà.
Parce que, non, parce que la dernière Coupe d'Europe, elle était en France, on ne l'a pas gagnée.
Hein. Malheureusement.
Voilà, hein, c'était les Portugais.
Mais bon, force pour la prochaine à l'équipe de France. Et d'ailleurs, CZ, tu as une deuxième partie des pépites à nous faire.
En numéro 5, allons au Bangladesh, pardon. Le 26 février dernier, donc une femme accouchait d'un petit garçon, jusque-là normal. Mais 26 jours plus tard, le 22 mars, elle donnait naissance à des jumeaux par une césarienne.
Ah, bah...
Oui, oui.
C'est pas.
Alors là, y a... voilà. Et ben, les médecins se sont aperçus que la jeune femme possédait un double utérus.
Waouh.
Une anomalie extrêmement rare qui permet donc le développement simultané d'embryons.
Bah oui, parce qu'il y en a deux, donc
voilà.
Deux utérus.
Voilà, donc elle a accouché. Alors du coup, en plus, c'est coup triple, puisque la deuxième fois, elle a accouché deux jumeaux. Numéro 4, allons en Dordogne, où un couple vend leur propriété estimée à 2 millions d'euros grâce à un jeu concours avec un ticket à seulement 13 euros.
Wow.
On achète un ticket, donc ça se passe en deux étapes. La première consiste à répondre à deux questions de culture générale sur le Périgord. Rien d'insurmontable. La deuxième, en revanche, va départager les participants. Il faut estimer une vitrine de trois objets. Donc une reliure calligraphique sur parchemin, un modèle de Chelsea Boots et une manchette Kajjo or 18 carats. Le plus proche du prix exact en poche le domaine.
D'accord, pour version, 13 euros. Version juste prix pour,
c'est ça.
Pour noble.
Bah pour noble, oui, mais enfin donc, le ticket est abordable puisqu'il est à 13 euros.
Oui.
Donc ils mettent 13 euros, ils gagnent la maison.
Ouais.
D'accord.
S'ils répondent et s'ils sont plus proches de la vitrine.
On va répondre, hein, combien de carats.
Ouais,
bon, ça se renseigne sur internet, tout ça on peut trouver maintenant. Allez, en numéro 3, un homme de 53 ans sort d'une fête, ivre mort, et appelle un taxi pour rentrer chez lui. Jusque-là, normal. Le chauffeur arrive et s'arrête au bout de 30 mètres. Figurez-vous qu'il ne se rappelait pas que sa fête se passait chez lui.
Ah, donc alors, est-ce que l'histoire dit s'il a payé quand même ou pas la course?
Je ne sais pas, l'histoire ne dit pas.
Bon, en tout cas, c'était pas Maxime le chauffeur. D'ailleurs, dédicace à Maxime pour ses émissions Couleur Piment.
Numéro 2, allons à Lyon, ou cette belle ville de Lyon, où un homme s'est présenté au commissariat pour porter plainte. Il reprochait aux policiers d'avoir saisi ses plants de cannabis.
D'accord, okay. Super. Il veut pas porter plainte non plus.
Bah si, justement.
D'accord.
Allez, numéro 1, latte dans l'Hérault, lundi 1er avril, et je vous assure que ce n'était pas un bon gros poisson, et pourtant ça pourrait l'être. Tout le monde sait ce qu'est un escape game.
Oui.
Oui.
Oui. Donc, c'est le jeu donc, d'évasion grandeur nature, d'évasion, pardon, de grandeur nature. Donc, trois cambrioleurs ont forcé la porte et se sont emparés d'un faux coffre-fort qui sert de décor au jeu et qui est bien sûr rempli de faux billets et de fausses drogues.
Ils ont pas compris en fait, à la règle du jeu.
Je pense pas.
C'était pas leur jeu.
Ils ont fait ça le 1er avril, c'est.
Billets de Monopoly.
Ah, c'est incroyable. Bah,
moi, c'est tout pour le top 10 des pépites. Rendez-vous dans 15 jours.
Ben voilà, merci CDED. On continue en musique avec Aloïse Sauvage et son titre Présentement.
Il grêle, mes pupilles belles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde toute tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart, tout explose, cette marée à queue s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché?
Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Radio Déclic.
Fréquence Paris.
C'est l'heure de votre agenda culturel, quelques dates pour vos sorties du week-end. On commence avec samedi 6 avril de 14h30 à 17h30, un stage de danse caribéenne avec Axel Jacobin, un stage sur la gestion du corps dans l'espace sur percussion caribéenne, salsa, rara haïtien et bien sûr du groka. Donc ça se passe au centre social, socio-culturel, Les Marnaudes, 10 rue Jacques Offenbach à Rosny-sous-Bois. Alors pour tout renseignement, vous avez un mail authentica@gmail.com. Alors authentica, c'est authentica@gmail.com ou par téléphone au 06 31 98 04 52 06 31 98 04 52. Et puis toujours samedi 6 avril à la salle de concert Ligne 13 de Sani, concert afro-jazz de l'artiste camerounais Dodi NGA, batteur de formation, il vous présentera les prémices de son premier album. Après plusieurs collaborations avec des artistes de renom, il a gagné son surnom de Baguette Magique. Donc c'est à la salle Ligne 13, donc maison de la jeunesse de Saint-Denis, 12 places de la Déportation et de la Résistance à Saint-Denis, le métro le plus proche, Saint-Denis, porte de Paris. Dimanche 7 avril de 14h30 à 18h30, l'association Agence de la Promotion des Cultures et des Voyages, APVC, vous propose à l'occasion de ses 28 ans et de la 3e édition de l'année de l'Algérie, un ciné-goûter concert saharien avec la projection du film L'Algérie vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, suivi d'un concert avec le groupe Banya Diwa Musique. Le Sahara compte de nouvelles voix captivantes pour propager ses traditions afro-berbères. Le groupe Banya, porté par la frénésie des Karkabou, le tout compose un florilège puissant des chœurs tournoyants et de syncopes électrifiées. C'est à la Bourse du Travail, 9 rue Genin à Saint-Denis dans le 9-3. Et puis toujours du 6, mais c'est les 6 et 7 avril à Paris cette fois-ci, dans le cadre de la semaine anticoloniale. Le salon anticolonial se déroulera donc les 6 et 7 avril au Centre international de culture populaire qui se trouve au 21 rue Voltaire à Paris dans le 11e. Articuler l'histoire, la mémoire et l'actualité du combat anticolonial et antiraciste autour d'une semaine anticoloniale, festival, politico-artiste, avec plein de dates, des conférences, des stands associatifs. Ça sera rediffusé sur Fréquence Paris Pluriel. Donc il y aura des débats, il y aura beaucoup de choses. Je vous invite à voir le programme. Il y aura la soirée Les Étoiles Noires donc sur Murray Bookchin, donc c'est un écrivain américain, un théoricien de l'écologie sociale, auteur de Pouvoir de détruire, Pouvoir de créer, vers une écologie sociale et libertaire. Donc voilà, tout ça, donc, je vous ai dit, ça se passe au CICP. L'adresse, c'est au 21 Terre rue Voltaire, à Paris, dans le 11e. Et puis, samedi 13 avril à 20h30, le Café Culturel présente le groupe Bilout Groka, le Groka évolutif qui tend à la modernité sans oublier ses racines et qui présentera donc son album Diyosa. Et puis, suivi de Fred Luisor et ses musiciens autour des mots, un voyage tendance, donc premier album, sans complexe, deuxième album évidemment, tout en poésie et c'est son recueil. Donc ça se passe à la salle Ligne 13 de concert, 12 places de la Résistance et de la Déportation à Saint-Denis, toujours dans le 9-3. Du 7 au 13 avril, la bibliothèque Elsa Triolet propose une exposition « Dans la peau d'une poupée noire à Bobigny ».
Cette exposition de photographies et de textes présente le remarquable projet d'écriture réalisé à partir de l'exposition Black Dolls, programmée à la Maison Rouge à Paris en 2018 par des élèves du collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny. Sous l'impulsion de la romancière et enseignante Chloé Cormal et de la commissaire de l'exposition Nora Philippe, les élèves ont écrit les biographies imaginaires des Black Dolls, ces poupées de tissu fabriquées entre 1840 et 1940 par des femmes noires américaines. 20 récits débridés et étonnants retracent leur vie en y intégrant les violences de l'histoire, de l'esclavage à la ségrégation, les solidarités et les histoires d'amour, la résistance éclatante dont elles ont pu être les témoins ou les actrices. Des portraits de jeunes collégiens réalisés par la photographe Géraldine Arestano seront présentés en regard de leurs textes. Alors, si vous voulez réserver, c'est au 01 48 95 20 56. 01 48 95 20 56. Et tout ça, donc, c'est à la bibliothèque Elsa Triolet, 4 rue de l'Union à Bobigny. Et puis, pour terminer, c'est jusqu'au 20 avril, ça a commencé déjà le 2, mais c'est jusqu'au 20 avril, 14e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, un rendez-vous incontournable du cinéma. Au programme, projection de films, performances de street art, table ronde, brunch littéraire, bal électro-oriental, le tout dans les cinémas médiathèques, et autres lieux culturels du Grand Paris Nord et bien évidemment à Saint-Denis, au cinéma L'Écran, place du Caquet. Et le métro le plus proche, c'est Saint-Denis Basilique. Voilà, c'est terminé pour l'agenda. Et bien voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours sur les ondes de FPP 106.3 avec dans 15 jours le top 10 des pépites, CZ.
Eh bien oui, le top 10 des pépites, au rendez-vous tous les 15 jours.
Senzo, on se retrouve peut-être dans 15 jours. Un
oui,
petit
oui, comme d'habitude.
Ou avec une chronique.
Ça serait pas mal. Ou alors pour participer. On l'espère au débat de On en parle ou pas dans 15 jours. Voilà. On retrouvera aussi Nadine pour la chronique plurielle et Leslie pour l'agenda culturel. En tout cas, restez à l'écoute de FPP 106.3. À la technique, c'est Gaëtan. Et puis, l'émission qui suit, c'est L'Envolée. Salut, bye.
Carré à part dans mes couplets. Sur la route du succès, c'est les embouts. Je me sens esselé dans la foule. Piano, piano, je prends la bouteille. Piano, piano, je perds la boule. Plus je roule ma bosse, plus je grille les footets. Je poursuis ma route, suivant ma propre boussole. C'est la panique à bord dans tout Bruxelles. Dur de garder l'esprit clair. J'essaie de porter le regard sur l'essentiel. Si tu te demandes pourquoi ta vie est casse-tête, c'est que la vie est un cercle. On répète les mêmes erreurs du landau cercle.